Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Je regarde beaucoup les gens qui dansent. Souvent, j'essaie de trouver des danseurs, des danseuses qui me font plaisir à voir. Des gens qui ont l'air investis de leur truc, qui ont l'air contents d'être là et dont je trouve les mouvements beaux, en fait. La concentration pour jouer en bal, elle se porte plus, j'ai l'impression, sur l'incidence qu'on a en direct. C'est-à-dire, est-ce que dans la salle, ça danse bien ? Est-ce que le tempo est bon ? Est-ce que tous ensemble, qui sommes en train de jouer, on est d'accord sur le groove à emmener, quoi ? Alors, à participer, à frapper, à faire... Enfin, dans la bourrée, on peut frapper par terre et tout. Si c'est à côté du tempo, de la carrure et tout, ça peut nous foutre complètement en l'air. Ouais, voilà.
Qu'est-ce que voit une musicienne du bal qu'elle anime ? Perchée sur son estrade, à quelques mètres du sol, qu'est-ce qu'elle regarde quand elle joue ? Elle s'accroche à un visage ? Elle se branche au mouvement de la foule ? Qu'est-ce que voit une musicienne du bal qu'elle anime ? Ce bal qu'elle tient, du bout de l'archet de son violon, au creux du bouton de son accordéon. On l'imagine un peu seule, cette musicienne, délivrée de la tension du regard, car le danseur, lui, il est tout occupé à sa danse, à ce qui se passe dans ses pieds, dans ses mains. Son point de fuite n'est pas la scène, non. Il est multifocal, il bouge, il ondule. C'est ça le bal, c'est du dialogue entre des corps et du son, dans un lieu qui sonne. Bienvenue au bal.
J'annonce les danses. J'annonce la danse avant qu'elle arrive. Une fois qu'elle est terminée, je félicite les gens qui viennent de danser quand même, parce que je reconnais l'effort. Et quand je les trouve particulièrement agréables à regarder, je leur dis aussi. Des fois, on raconte un peu des histoires, quand il y a un peu des paroles et tout. Des fois, on parle un peu de ce qu'on dit, de la chanson qu'on va chanter. C'est une posture un peu compliquée. Il faut être un peu dynamique, un peu rigolote, pas trop surplombante. Et en même temps, pas niaise. Enfin, je préfère pas trop parler, du coup. Pas tomber dans aucun des pièges.
A priori, le bal, c'est une équation simple. Des musiciens live, des danseurs, des répertoires. Et pourtant, le bal déroute. Le bal fascine. Le bal fausse ses pistes. Tirons les fils cachés du bal. Radioscopons le bal. Le bal folk, le bal trad, le baloche, le baletti, appelons-le comme on veut. Radioscopie du bal, épisode 1, l'expérience du bal.
Alors elle est comment cette salle ?
Elle est bien. Non, c'est vrai qu'elle est bien. Pour faire un bal, elle est bien.
C'est quoi une bonne salle ?
Une salle bien, c'est une salle avec un parquet qui va bien et une salle assez grande pour qu'on tienne tous dessus, pour qu'on ne se marche pas sur les pieds.
Et tu connais le groupe qui va jouer ?
Non, pas du tout. Moi, je connais rien. J'ai pas lu la plaquette avant. Je suis venu un peu hyper mal préparé.
Allez, j'approche. Merci.
Ce soir-là, c'était un samedi soir sur la Terre, au cœur de l'hiver, coincé à côté de l'A42, en zone périurbaine. À quelques kilomètres de Lyon, il y a un bal. Je pousse la porte.
Ça fait longtemps que tu danses ?
Je sais pas, oui, je crois. Ça fait au moins 20 ans. Mais souvent j'ai arrêté. Après je recommence et j'arrête.
Tu viens pour quoi ?
Ben, pour danser.
Pour danser ?
Pour danser, ouais.
D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans le bal folk ?
Dans le bal folk, j'aime que ce soit un peu tranquille, que c'est un peu moins hiérarchisé que dans un bal tango, dans d'autres bals que j'ai pu voir. Je trouve ça plus accueillant. Je crois que j'aime bien la bourrée, j'aime bien la polka, parce que c'est mon côté autrichien, ça. C'est un truc bohémien, ma famille en bohème. La polka, ça vient de Prague. Mais ouais, bref, il y a des pistes comme ça que j'aime bien, des fils que j'aime bien tirer, mais pas tous. Enfin là, ce soir, je suis venu pour danser, je m'en fous d'où viennent les danses. Voilà.
En fait, il y a une vraie interdépendance entre les gens qui jouent et les gens qui dansent. Et c'est ça qui est assez particulier au bal. Le tempo et leur rythme cardiaque, finalement, dépend de ce que les gens qui sont en train de jouer ont décidé de faire. Enfin, il y a un truc assez connecté, quoi. Et inversement, si la salle qui est en train de danser répond pas bien, c'est-à-dire il y a peu de gens qui dansent, ou quand ça danse, les gens font pas beaucoup de bruit, si ils sont dans le noir, on les voit pas vraiment bien, si on a l'impression que c'est pas assez fort, et que du coup ça décolle pas vraiment, que les gens comprennent pas ce qui se passe, et donc ils dansent un peu à côté, ça perturbe vachement la musique, en fait. Ça fait retomber les trucs, s'il y a des gens qui commencent aussi à participer, à frapper, à faire... Enfin, dans la bourrée, on peut frapper par terre et tout. Si c'est à côté du tempo, de la carrure et tout, ça peut nous foutre complètement en l'air. Ouais, voilà.
On va avoir une grosse dizaine de danses qui tournent comme ça vraiment dans tous les bals. On va avoir la scottish, donc des danses en couple, la scottish, la valse, la mazurka, la polka. On va avoir des danses collectives, le cerf circassien, la chapeloise, des danses bretonnes, l'andro, l'anterdro. Des danses du centre France, on va avoir de la bourrée trois temps, bourrée deux temps. Et voilà, et après, en fonction des groupes, eh ben, y en a qui vont aller chercher dans des choses qu'on peut juger un peu plus rares, ils vont aller chercher dans des danses du sud-ouest de la France, dans des polskas suédoises, dans des pizzicas italiennes. Donc après, c'est vraiment en fonction des goûts de chaque groupe.
Il y a du son, il y a du mouvement. En fait, c'est vraiment... Je crois que tout mon rapport, moi, à cet événement, que ce soit d'ailleurs en tant que danseur ou en tant que musicien, c'est un rapport au mouvement. Il y a un truc qui bouge, qui pulse, qui est là. Donc du coup, c'est un énorme rapport à l'instant présent. Et cette espèce de mouvement, un peu brut, il faut le maintenir. Il faut le maintenir, c'est un peu le foyer qui brûle, tu vois. Il faut alimenter ça en oxygène. Donc tout le monde le fait en même temps. Et c'est vraiment c'est toujours dans l'action, c'est pas tellement dans la tête, c'est dans le corps, c'est dans le geste, c'est dans le... C'est pas comme si tu sentais tous les yeux qui sont calqués sur toi, que dès qu'il y a une erreur dans la musique ou quelque chose, tout le monde se fiche parce qu'on se demande ce qui s'est passé. Non, là c'est vraiment show must go on. Ça trace. Et c'est ça, c'est vraiment, il y a du mouvement, il y a de la lumière, il y a une pulsation, c'est vraiment une pulsation de vie, quoi. Il y a quelque chose de très battant là-dedans, quoi.
J'y vais à fond tout le temps. Après, je suis crevé et c'est super. Et les gens qui sont en face, je sens qu'ils me renvoient aussi cette énergie quand c'est un peu tendu. Moi, c'est dans cette... Il y a cet état-là que j'aime bien, en fait, en bal, un peu de tension nerveuse. Quand je dis tension, c'est pas de l'énervement ou quoi, c'est être dans une espèce d'énergie comme ça. Pour moi, j'ai besoin d'avoir de la niaque, quoi, pour jouer en bal. Sinon, j'y arrive pas, en fait. Mais il y a un truc, allez, faut que ça aille. Ça veut pas dire jouer vite, ça veut pas dire que jouer fort, que jouer vite ou quoi. C'est vraiment, en fait, il faut être là et tenir, en fait. Je sais pas, il y a un truc de tenir le bal, quelque part. Mais qui se fait entre musiciens et danseurs, hein. Ça se fait pas tout seul, évidemment, heureusement.
Oui, il y a une attention, je trouve, quand tu joues pour des gens qui dansent, sur la durée. Je trouve qu'il y a un rapport à l'écoute des corps et des oreilles du public qui est un peu différente que celle du concert, effectivement. Je trouve que t'es plus attentif, enfin, moi je ressens ça comme ça, t'es plus attentif au mouvement des gens, si ça prend, comment ça prend. Tiens, là, on retourne encore un coup parce que ça monte et que l'énergie est là et qu'elle vit, quoi, elle vibre.
Moi, quand je parle de dynamique, c'est déjà dans un instrument même. C'est-à-dire, tu joues du violon, la manière dont tu vas phraser une mélodie, c'est-à-dire la manière dont tu vas articuler, dont tu vas toucher ton archer, comment tu vas lier les notes ou pas, à quel endroit tu vas micro-sauter, la manière dont tu vas étaler les notes dans ton tempo. Est-ce que tu vas les faire plus rapprochées, plus éloignées, plus sèches, plus égales les unes aux autres, plus inégales. Toutes ces micro-petites choses qui ne sont pas forcément intellectualisées, tout ça, bam, ça te porte le pied, ça te porte le corps, ça te fait rebondir, quoi. Il y a quelque chose de, il y a une évidence, quoi, une adéquation. Là où t'as gagné, pour moi, c'est à partir du moment où, si tu prends un lot de danseurs et de danseuses qui connaissent déjà un petit peu, tu lances un morceau, tu n'annonces pas la danse, et tout le monde, c'est une évidence, tout le monde sait quelle danse c'est. Ben là, déjà, c'est que c'est qu'il se passe un truc, quoi.
Le bal, c'est un événement qui a toujours eu lieu, mais qu'on ne voit pas. Il n'y a pas vraiment d'encart aux arrêts de bus, pas d'annonce radio. On apprend la tenue d'un bal sur des forums, sur l'agenda trad, dans les publications des réseaux sociaux, et puis bien sûr par bouche à oreille. Ici, dans ce grand quart sud-est de la France, l'année commence avec le bal folk de la rentrée de la Campanule au CCVA à Lyon. Et puis on a aussi le bal de l'automne au Braillot, à côté de Clermont-Ferrand. Et puis Funambal, enfin, en avril, à Rieux-la-Pape. Mais il y a surtout les grands pèlerinages d'été. Ça ouvre en juin, avec les volcaniques au Puy en Velay. Et puis ensuite, autour du 14 juillet, il y a le festival Le Son Continue, dans le Berry, qui est tout de suite suivi du grand bal de l'Europe, à la fin du mois. En août, ça converge vers Saint-Gervais d'Auvergne, pour le festival Comboros. On y va entre copains, en caravane ou en tente. On y va en crew. On s'y retrouve d'une année sur l'autre. Et puis on y retournera plus tard, des années après, avec les enfants. Et lentement, mais sûrement, le trad se perpétue. Le public du trad s'agrandit. À bas bruit, sans grand titre dans les journaux, sans émission dédiée, sans nomination Victoire de la musique. Par contagion et par amitié, le bal s'impose.
Mon premier gentil, en fait, c'était en 2005.
Luca Thébou, accordéoniste de bal depuis 20 ans, des groupes Petit Piment et Turbo Bal. Il me raconte sa première rencontre avec le bal.
Pendant l'été 2005, je me dis, bon, bah allez, premier festival, mon père me parlait beaucoup de Gentine, ça avait l'air d'être vraiment incroyable.
Gentine, c'est le grand bal de l'Europe.
Donc on avait décidé d'y aller ensemble, et puis coup de théâtre, 10 jours avant, il arrête le duo dans lequel il jouait de manière un peu abrupte, et il décide de pas y aller. Et donc là, il me tend les clés de la voiture, il me passe la voiture, il me dit, écoute, voilà, prends tout, voilà le réchaud pour le camping, vas-y tout seul, tu verras. Donc moi, je débarque là-bas. Et là, ça a été une semaine, mais ça m'a retourné la tête. Je suis parti au bout d'une semaine, j'étais en larmes de bonheur, de tristesse, je savais pas ce qui se passait. J'ai fait 40 km de route dans la mauvaise direction avant d'en apercevoir. J'avais l'impression vraiment qu'on m'avait passé la tête à la moulinette, quoi. C'était un tel cocktail d'émotions que vraiment, j'avais l'impression d'avoir trouvé le paradis sur Terre, quoi. C'était... incroyable, et je pense que ça fait ça à beaucoup de gens, en fait, cette espèce de découverte du bal, du festival, espèce de méga ascenseur émotionnel qui laisse complètement retourner, quoi.
Pourquoi c'est une expérience si forte? Qu'est-ce qui se passe pour que ça provoque ça?
Bah déjà, il y a le rapport à la danse, mais x10, c'est-à-dire que t'es dans un endroit où tu peux danser du matin au soir, donc il y a un peu la fatigue qui vient jouer par-dessus. Tout le monde est là pour ça, tu rencontres des gens, il y a beaucoup de rencontres. Tu vis des choses dans la danse, un petit peu aussi en dehors de la danse. T'as que ça, t'es coupé du monde, quoi. Il y a ce truc un petit peu aussi de bulle, quoi. Et ouais, tout cette espèce de cocktail de relations humaines, là, avec l'écrin de la musique, de la danse. En tout cas, c'est comme ça que tu le perçois au début. T'arrives et t'as une sensation de « Oh, bah, venez comme vous êtes, avec le niveau que vous avez. » On vous accueille, quoi, et on va vous apprendre à danser, et on va tous...
T'es avalé, quoi.
T'es avalé par la machine, mais t'es plutôt accueilli comme dans des bras. Vraiment, j'ai l'impression que ça attire des polytraumatisés affectifs qui tout à coup trouvent une espèce de d'accueil bienveillant géant, quoi.
je m'appelle Clémence Cognier, je suis violoniste, et chanteuse aussi, et danseuse de bal. Ouais.
Quel est ton rapport avec le bal, le contexte du bal, c'est ce drôle de rituel contemporain qui est le bal?
Bah, pour moi, c'est vraiment un rapport très naturel, en fait. Je sais pas comment dire. Enfin, culturel dans le sens familial, quoi. Je sais un peu... Pour moi, le bal, c'est comme Noël ou tu vois, ou le poulet grillé du dimanche midi, quoi. C'est la chose que je fais depuis que je suis toute petite, avec ma famille, avec mes amis, avec les amis de la famille. C'est la manière de faire la fête que je connais depuis le plus longtemps, en fait.
Ok, donc il y a une dimension familiale, il y a une dimension de l'enfance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quel est ton rapport au bal? Tu aimes toujours y aller?
Ouais, j'ai pas tellement changé de rapport. C'est toujours des contextes, globalement, dans lesquels je me sens vraiment bien. Je me sens à ma place, où je comprends les rapports entre les gens, où je sais vite évoluer à l'intérieur, je sais me situer. Enfin voilà, c'est mon milieu naturel, quelque part. Et après, c'est aussi devenu en partie mon métier, puisque je suis musicienne professionnelle et parfois un peu prof de danse, quoi. Bourré, c'est comme tout à l'heure. De toute façon, là, ça y est, on a fait à peu près presque le tour des danses qu'on va faire, donc maintenant vous savez tout faire. Donc on refait une bourrée. Si vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez demander à Clément. Mais je passe aussi souvent du côté organisation d'événements. Oui, voilà.
Parce qu'il adore expliquer les danses.
J'ai un peu expérimenté tout le tour de la galerie de portraits, quoi. Des gens qui jouent sur scène, aux gens qui dansent dans la salle, aux gens qui servent à la buvette, aux gens qui sonorisent le bal, aux gens qui font les entrées. Voilà, j'ai fait tous les rôles, quoi.
Je suis Karine Bizard, je suis bretonne et du coup moi j'ai découvert très tôt la musique traditionnelle en Bretagne.
Karine Bizard, passeuse de danse à Lyon, membre de la Campanule et du festival Funambal.
Avec les fêtes de l'école, les fêtes du village, donc j'ai très vite été dans le bain des danses traditionnelles bretonnes. Donc quand j'étais petite, en fait, mes parents ont commencé vers mes 7-8 ans à reprendre des cours de danse traditionnelle. Donc j'ai pu participer avec eux. J'allais toute petite avec mes grands-parents au club du 3e âge, retrouver mes copines et danser avec eux. Donc très tôt était en lien avec la musique et la danse.
Alors toi, personnellement, qu'est-ce que tu aimes dans le bal? Qu'est-ce que tu viens chercher dans le bal?
Alors, comme je disais, moi j'ai commencé à danser très tôt, donc j'ai très vite eu le virus de la danse. Au départ, essentiellement avec les bals populaires et donc à l'époque, quelques danses bretonnes. Et il y a eu donc des cours qui sont réapparus et donc j'ai suivi un peu le flow. Et bien après, au fur et à mesure de mes études, des différentes villes qui m'ont accueillie, ben, j'ai ou continué la danse trad ou découvert d'autres danses, parce que j'avais vraiment ce besoin de danser. Donc j'ai fait beaucoup de salsa, de rock, de tango, de contact impro, vraiment un peu de tout. Mais voilà, je reviens toujours, quoi qu'il en soit, au bal folk, qui reste la musique et la danse qui me fait vibrer. Et alors la différence entre, pour moi, le bal folk et toutes les autres danses sociales, c'est qu'il y a cette partie de danse collective. Il y a pas seul, enfin, je suis aussi très intéressée par toutes les danses de couple, mais je trouve que c'est ce qui est aussi hyper intéressant dans le bal folk, c'est que on a tous ces moments où on partage tous ensemble, quel que soit le niveau dans la danse. Enfin, le collectif a un peu ce côté
ça a plani un peu l'esprit de compétition qu'on pourrait avoir dans les danses de couple, à vouloir toujours danser avec les meilleurs danseurs qu'on peut parfois retrouver. Donc, et puis le public pour moi est aussi, très différent. Je trouve que les gens sont, voilà, là je fais actuellement encore de la salsa, mais du coup j'ai toujours cette impression que le public est un peu plus tape à l'œil, un peu plus dans le paraître, et c'est pas ce qu'on a dans le bal folk, quoi. On a l'impression, voilà, d'avoir des gens plus simples qui partagent une passion commune, qui deviennent une famille en fait. Il y a aussi la variété d'âge, on se retrouve avec des gens de 7 à 77 ans, enfin on peut venir avec nos enfants et les grands-parents, et il n'y a pas du tout pour moi de clivage par âge. Et voilà, du coup l'impression d'être vraiment dans quelque chose de très populaire, très familial, très amical.
Maintenant on vous fait un Noël, laissez-vous inspirer par ça. Ça ressemble un peu à une scottish, un peu comme la première danse, mais plus hivernale. Voilà.
Le groupe Garen en bal au festival Umlaut. Jacques Puech, musicien du collectif La Novia. Jacques, est-ce que tu peux nous raconter où et comment tu as croisé les chemins du bal?
Comment je l'ai croisé? En fait, je l'ai croisé un peu de fait, jouant de la cabrette, c'est-à-dire que je faisais un instrument dit traditionnel qui m'a amené forcément à jouer des répertoires traditionnels du Massif Central. Et du coup, la pratique principale de ce répertoire-là, c'est la danse, enfin c'est fait pour faire danser. Donc j'ai été amené à jouer au départ pour des danseurs, mais en groupe folklorique. Donc c'était déjà une pratique de danse. Et après j'ai rencontré vraiment le milieu du bal qu'on appelle folk ou trad maintenant, à côté d'Aurillac, où il y avait des bals. Une fois par mois, il y a des bals à côté d'Aurillac, tous les premiers vendredis du mois. Et là, c'était dans un petit bar en pleine campagne, en fait. Et du coup, j'ai appris là-bas, quoi. Après voilà, j'ai continué sur cette lancée-là qui me plaisait bizarrement plus que le groupe folklorique. Et je suis monté à Clermont-Ferrand, à la capitale à l'époque. Et là oui, forcément j'étais chez les Braillots, où il y a un bal tous les mois. Et donc c'est une bonne grosse école, ouais, parce que quand tu joues tous les mois en bal pour une centaine de personnes, ou quasiment tous les mois, avec des musiciens qui ont ton âge ou à peu près, ou un peu plus, mais qui font ces musiques-là depuis longtemps, qui les connaissent, qui ont été vraiment dans ce bain culturel-là, très, très fortement. Tu ouvres grand tes oreilles, tu ouvres grand tes yeux et tu regardes ce qui se passe, comment ça se fait. Ce que j'ai pas dit avant, mais qui en fait partie et qui est dans la continuité, c'est aussi j'ai appris à danser à cet endroit-là. Moi, je dansais pas. Et du coup, j'ai appris à danser aussi dans ces balles-là. Ce qui nourrit la pratique musicale, et en fait c'est très vite tu passes sur un tout, en tout cas chez les Braillots, moi j'ai toujours l'impression d'être dans un espèce de tout où j'y vais pas en tant que musicien quand je suis chez les Braillots. Je sais que je vais jouer un moment certainement, mais je suis pas là en tant que musicien, je suis là en tant qu'acteur, acteur du bal complètement, donc que ce soit en train de danser, en train de jouer ou à la buvette en train de dire des conneries. C'est le bal, c'est pas que l'endroit où ça danse, c'est pas que l'endroit où il y a les musiciens, c'est un truc plus global en tout cas quand je suis là-bas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'aime aussi, quoi. Voilà. Et après, après ma pratique m'a amené à jouer à d'autres bals partout ailleurs, dans d'autres contextes aussi, qui sont des fois plus formalisés, où il y a moins peut-être ce truc-là, où moi j'ai des fois moins retrouvé ce truc de fait social, un peu plus large que juste la danse et la musique. Et je l'ai retrouvé après dans la nobe, quand on fait des balles, le bal acoustique notamment. Et c'est le même truc, en fait, on se retrouve pendant 2 jours, on mange ensemble, on fait à manger, on va faire des balades, on prépare le lieu, on accueille les gens, on joue, on danse, on tient la buvette, en fait, tu vois, c'est un truc, on organise une fête, en fait, je crois qu'il y a vraiment ça, quoi.
Thank you.
Après, dans le bal folk, ce qui me plaît aussi et ce qui fait aussi que je danse de danse sociale, c'est qu'il y a aussi quelque chose de très magique avec les danses de couple. Il y a quelque chose qui se passe à deux dans le couple, donc il y a cette espèce de recherche de contact ou de sensualité platonique, comme on pourrait dire. Il se passe quand même des choses très très différentes en danse de couple qu'en danse collective. On ne va pas rechercher forcément la même chose ou ressentir la même chose. Ouais, ce serait plus la... En danse de coup, ce serait plus du coup la scottish, la mazurka, où on va pouvoir vraiment être dans la créativité et utiliser peut-être des choses qu'on apprend dans d'autres danses. Mmh.
Tu as eu besoin d'apprendre ces danses auprès de gens spécifiquement? Il y a des gens que tu estimes passeurs pour toi, importants, ou tu as réussi à apprendre avec le bal seulement?
Pour, je dirais que j'ai une grande partie appris seule, mais ou en copiant, mais quand même tout ce qui sont ce que je pourrais qualifier de danse de terroir, donc avec vraiment un collectage et une transmission importante, toutes les danses du sud-ouest que je maîtrisais pas du tout quand je faisais de la danse en Bretagne, les danses du sud-ouest, la bourrée d'Auvergne. Le Poitou, la Vendée, et en effet, pour tout ça, il y a des personnes clés dans mon histoire d'évolution dans la danse. Donc oui, forcément, et puis les bourrées trois temps avec les broyaux en Auvergne, tout ça, oui, j'ai adoré pouvoir faire des stages, comprendre mieux ce qui se passait. Et, par exemple, je me souviens de la première fois où je suis allée à un bal chez les broyaux, où je pensais avoir un peu capté ce qui se passait en bourrée trois temps, avoir déjà fait des stages à Argentine, ou avec les musiciens, les danseurs de Comrade, par exemple. Et puis j'arrive là, très tardivement, en fait, ma première fois chez les Braillots, à un bal d'Auvergne, et à rester bloquée pendant 2 heures à regarder ce qui se passe dans la salle, et à me dire « Waouh, mais en fait, je sais pas danser, et en fait, il se passe vraiment quelque chose ici ». Et à ressentir l'énergie dans la salle et à pas savoir pourquoi, mais à juste être là, à se laisser à absorber tout ce qui se passe et à redevenir hyper humble dans la danse et à se dire, c'est exactement ce que je ressens quand je fais du bal chez moi en Bretagne ou quand je vais en bal folk et que je me dis, il manque un truc. Et avoir vraiment les gens qui sont dans la région, qui dansent leur danse, qui ont toujours entendu la musique, qui ont toujours vu les gens danser, il y a vraiment quelque chose de très différent.
Enfin, c'est sur cette question d'éducation populaire du bal. Est-ce que c'est des choses qui vous ont intéressé à un moment donné, animé voilà, le côté enjeu politique derrière le bal. Comment le bal y travaille ça? Ces questions d'éducation populaire qui sont quand même assez imprégnantes.
Oui, oui.
Entretien avec Jacques Puech, musicien.
En fait, si moi je vais prendre mon expérience chez les Braillots, qui est la plus forte là-dedans, qui se revendique association d'éducation populaire, pour le coup. Et comment le bal traverse ça? Alors, l'éducation populaire, elle est à plein d'endroits et pas que dans la forme du bal où les gens dansent. Quand je disais que le bal c'était un truc plus large, c'est aussi. Moi, j'inclus, par exemple, le repas qu'on va faire avant, dans le bal. Et pour faire un repas, et bien, il faut y être déjà l'après-midi. Et donc, il faut préparer le repas, etc. Et il y a plein de gens qui peuvent venir. Si tu ne sais pas faire à manger, tu peux venir quand même aider à faire à manger, mettre le lieu en place, etc. Et si tu ne sais pas faire un truc, il y a quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre. Et donc, il y a une circulation des savoirs comme ça et des savoir-faire qu'on retrouve dans la musique aussi, qu'on retrouve dans la manière de danser, en fait. Quand tu sais pas danser, t'arrives à un bal, tu sais pas danser. Moi, je trouve que c'est un truc que je trouve hyper beau, c'est que t'arrives, tu sais pas danser, et tu repars, t'as su danser quelques trucs parce que t'as demandé ou qu'il y a eu des gens assez attentionnés pour venir te chercher et pour danser avec toi. Et je trouve que cette transmission-là, elle est quand même géniale. Et moi, je tiens fort à ça, en fait, à ce truc-là de dire... On peut amener des gens de l'extérieur au bal. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Et en fait, et que le bal, ce soit pas que danser. En fait, on les amène au bal. Ils viennent au bal, on va danser, mais on va aussi boire des coups à la buvette. On va juste passer, ouais, c'est ce que je dis, on va faire une fête ensemble. On fait une fête ensemble. Et donc, le fait d'être ensemble, forcément, on échange plein de trucs. Donc, est-ce que l'éducation populaire se situe à cet endroit-là d'échange des savoirs? Moi, je crois qu'il y a une partie de ça, en fait. Donc un des points importants aussi chez les Braillots, c'est la question de l'enseignement, notamment à travers l'école de musique, L'idée, c'est qu'on va former des gens à faire de la musique et à leur donner le goût juste de pratiquer et de faire de la musique. Et après, s'ils ne font pas de musique traditionnelle, c'est pas grave, en fait. C'est un support pour pouvoir faire d'autres choses. Mais le fait d'être dans l'école de musique, ça veut dire aussi que tu es dans l'association. Et donc, à partir du moment où tu es dans l'association, eh ben, tu côtoies aussi des gens, d'autres gens qui gravitent. C'est pas, tu ne vas pas à l'école de musique de la ville, en fait, au conservatoire, où tu vois ton prof, après tu vois un autre prof de FM, et tu n'as pas croisé grand monde. Là, bah, tu arrives, tu croises ton prof, mais tu croises aussi les gens qui travaillent dans les bureaux, mais tu croises aussi des bénévoles qui sont là en train de tailler la treille. Tu croises aussi René qui fait des tartines pour le goûter à 4 heures. Voilà.
C'est un lieu de vie.
En ce moment, j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse très attention. J'ai l'impression que là, il y a un peu une mode du bal.
Clémence Cognet, musicienne.
Tout événement culturel, qu'il soit super institutionnel ou super underground, doit passer par un moment bal. Il y a un côté un peu... J'exagère un peu, mais en tout cas, dans le milieu très institutionnel, c'est ça. Il y a des balles partout, il y a des balles de toutes sortes, de toutes formes, et t'as l'impression que ça va déboucher toutes les oreilles, tous les canaux. Même si, évidemment, on est content, ça y est, notre discipline, elle est reconnue, elle est financée, nos associations, elles respirent par endroits. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit très au clair et très solide là aujourd'hui sur notre discipline. C'est pas tellement qu'on veut pas la partager, c'est même pas ça du tout. C'est voilà pourquoi elle fait sens, voilà dans quel genre d'endroit elle fait sens, voilà le prix à l'entrée pour qu'elle fasse sens. Le bal est pas émancipateur en soi, c'est comme si on se dit la culture, l'art est pas de gauche. Bah, le bal c'est pas de gauche. C'est pas émancipateur en soi. Je pense que c'est dans une certaine maîtrise des contours, ça émancipe les gens. Parce que tu peux circuler librement, parce que tu peux te comporter comme tu veux, parce que les interactions sont facilitées, parce que aussi, d'une certaine manière, aujourd'hui, on fait en sorte que ce soit safe comme endroit, c'est-à-dire tu peux te sentir en sécurité, tu peux accepter une danse, refuser une danse, tu peux changer de partenaire, tu peux... C'est aussi une manière très simple d'acquérir des compétences. Si tu arrives dans un bal et que tu sais pas danser, à la fin du bal, tu sais un peu danser des trucs, et au bal suivant, tu vas pouvoir apprendre à ceux qui savent pas du tout danser. Donc il y a un truc quand même un peu grisant.
Oui, il y a une sorte de mouvement comme ça, de progression en fait collective dans le bal. C'est ça que tu décris ?
Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, il y a aussi, tu vois, si tu penses à la circulation par exemple des personnes dans le bal, tu te dis, en fait, ça se mélange vachement. Tu peux croiser plein de gens très différents. Tu peux te retrouver à la buvette à côté de gens. En fait, tu ne serais jamais retrouvé à côté d'eux normalement, tu vois. Bon, ça, c'est possible que si l'entrée n'est pas chère et que le bal est ouvert à plein de gens différents. Voilà. Ne serait-ce que des danses en rond, où tu te donnes les mains et en face de toi, il y a des gens et tu réponds à quelqu'un qui chante. Et si t'as jamais chanté, et t'as le droit de chanter, et tu chantes en chœur avec 300 personnes, tu vois, comment on travaille sur cet endroit du bal pour que ce soit toujours un endroit collectif et émancipateur et un peu transformateur, en fait.
Donc tu t'es intéressé à pas mal de formes de balles différentes. Est-ce que tu peux nous situer cet objet du bal folk dans cet écosystème du bal?
Le bal folk ou le bal trad, les danses trad, on les appelle aussi comme ça. Lors d'une enquête qu'on avait réalisée à plusieurs chercheurs en 2007 pour le compte du ministère de la Culture sur les danses du monde et danses traditionnelles, on s'était rendu compte que c'était une enquête sur la transmission. On s'était rendu compte que les danseurs, les transmetteurs de trad étaient les plus nombreux de cet univers des danses trad et trad au sens large, et danses du monde. Donc c'est une des communautés les plus importantes, c'est-à-dire qu'elle est implantée dans toutes les régions de France, avec évidemment une concentration forte en Bretagne, bien sûr, mais on en trouve partout, en milieu rural, en milieu urbain, en milieu périurbain. Il y a des communautés de danseurs très diverses. Après, il y a une difficulté pour le sociologue, c'est que sur ces milieux de danse-là, sur ces pratiques de danse sociale, il n'y a pas d'enquête quantitative nationale qui nous permette d'avoir des échelles de grandeur sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, les observations empiriques un peu partout que j'ai réalisées, qui sont corroborées par d'autres qui fréquentent ces balles, tendent à montrer qu'on est face à un public plutôt assez jeune. Jeune, ça veut dire où il y a une proportion de gens entre 20, 25 ans et 40 ans qui est assez importante, contrairement à d'autres milieux de danse. Voilà pour les situer très brièvement.
Le bal trad en France, c'est un public mouvant, inquantifiable, qui glisse entre les doigts des chercheurs. Ce que nous dit le sociologue Christophe April, c'est que la communauté de danseurs la plus importante de France passe complètement sous les radars et échappe aux chiffres qui nous renseigne sur les pratiques culturelles des Français. Et pourtant, ça existe partout, les bals, dans toutes les régions, des Landes à Lyon, de la Bretagne au Cantal, dans toutes les grandes villes, aussi bien que dans les villages, vous trouverez des bals.
Ensuite, la deuxième chose aussi, peut-être, c'est que, en termes de répertoire, il y a une coexistence, une coprésence de danse d'une extrême complexité, d'une extrême subtilité, et puis des danses qui sont basées sur un pas de base assez répétitif, qui n'exclut pas la complexité si on progresse plus en avant en termes de technique. Et donc cet aspect répétitif, ce côté un peu lancinant, crée une certaine ambiance qui permet aux pratiquants d'atteindre assez rapidement ou assez régulièrement, peut-être plus régulièrement que dans d'autres danses, ce que j'ai appelé dans les mondes du bal une transe de basse intensité. C'est un état, c'est pas vraiment une transe, c'est pas vraiment un état modifié de conscience, comme les neurobiologistes et les anthropologues peuvent le décrire de la transe, mais c'est un état un peu de flottaison, les psychologues parlent de flow. C'est un état où on est un peu second, où tout est facile, où le sentiment du temps qui passe s'évanouit, où je ne réfléchis plus à ce que je fais. Où je suis complètement dans une forme d'immersion. Voilà. Le côté répétitif vous amène assez rapidement à ça. Non, c'est dans ça.
Vous pouvez vous mettre en place pour une suite de rondo en couple.
Vous dansez? Vous êtes danseur?
Oui.
Vous venez depuis longtemps?
Depuis 2015.
Ah oui,
ça
d'accord.
Ça fait 8 ans.
Ok.
Et j'aime bien.
Comment vous avez découvert le bal?
J'ai découvert aux 30 ans d'une copine, dans un week-end à la montagne. Il y avait un musicien qui savait jouer deux morceaux. Il y avait un mec qui savait faire danser ces deux morceaux. On était 30, il n'y en avait que deux qui savaient danser. Puis ils nous ont appris. Il y a Lyon, il y a des cours. Je suis allé au cours et puis voilà.
D'accord.
Et depuis, je danse.
Vous dansez. Vous écoutez de la musique trad ou juste au bal?
Alors non, j'en écoute. Quand j'écoute de mic, maintenant j'écoute quasiment que du trad et du rap. Et je me suis mis à découvrir, j'aimais bien la trance organique, la trance avec la musique, avec des instruments.
Ouais.
Et en fait, je connaissais pas et j'aime bien aussi.
Voilà, donc le bal, il provoque de la trance organique.
Ah, ça c'est sûr. Okay. Ça c'est sûr. Ce soir, moi, j'ai pas trop dansé, mais oui, quand on passe une nuit complète à danser, ouais, c'est clair.
D'accord.
C'est clair. Là, en ce moment, j'ai pas dansé depuis septembre, mais avant le Covid, je dansais deux fois par semaine et un bal toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Je dansais beaucoup, beaucoup.
C'est ça que vous venez chercher, alors, cette espèce d'état un peu spécial?
Alors là, je venais discuter avec des amis. Quand je suis parti de chez moi, j'avais pas envie de danser.
Ouais.
Et en fait, au bout de danse, on rentre et on part, on oublie le temps. Et, ça me fait un peu penser avec au snowboard. J'ai fait énormément de snowboard à une époque, beaucoup de hors-piste. On n'est que dans la sensation, on pense à rien d'autre qu'à nos mouvements et à la glisse. Et en bas, là, on est sur un parquet, on est dans une salle, mais c'est aussi le mouvement et la sensation qui compte. C'est tout, on oublie le cerveau ne réfléchit plus quand on danse, enfin quand on connaît les pas, et ça c'est super agréable.
Et est-ce que toute la dimension patrimoine, histoire vous intéresse là-dedans?
Moi, c'est m'est venu après. Ou quand j'ai commencé à apprendre les danses, j'ai voulu savoir d'où elles venaient. Et comme j'allais dans des stages où les profs expliquent souvent, ça m'intéresse, mais je ne les danse pas pour le patrimoine. Mais je suis content que ça en fasse partie et qu'on continue à le perpétuer par contre.
Ok, bah merci. Bonne danse, mon bal.
Merci.
D'un point de vue institutionnel, le bal, je dirais, a un statut ambivalent. D'un côté, le ministère de la Culture fait tout son possible depuis plusieurs années pour essayer d'accorder une place à travers le bureau des pratiques amateurs, puis ensuite ça change de nom, on l'organigramme, pour accorder une place à ces pratiques de danse sociale qui sont pratiquées au bal. Des danses au sens large, hein, donc des danses aussi bien, ça va des rave parties aux tés dansants, hein, le bal en tant qu'assemblée de personnes qui dansent, donc avec des formes de danse solo, des formes de danse de groupe, des formes de danse de couple. Donc il y a à la fois un effort, mais dans les fêtes, moi en tant que en faisant du terrain, en essayant d'aller dans les rencontres qui sont organisées par le ministère de la Culture, par les collectivités territoriales, par le ministère de la Culture à travers les DRAC dans les régions, je me suis rendu compte que la plupart des rencontres quand même accordaient une prééminence aux danses de scène et particulièrement à la danse contemporaine. Et donc empiriquement sur le terrain, je me suis rendu compte que et puis tous les praticiens de bal le savent, c'est très très rare les formes de bal qui sont subventionnées. Il n'y a quasiment aucune subvention pour ce secteur d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, le singulier de la danse, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, désigne une danse particulièrement hégémonique. Donc jusqu'à fin des années 70, la danse classique, à partir de Jack Lang, la danse contemporaine. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce singulier, il est trompeur, il y a une espèce de tromperie, de duperie dans ce terme. Parce que, à contrario, la danse n'englobe pas la country, la bourrée, l'andro, l'indie hop. Voilà. C'est-à-dire que ces danses-là, qui sont des danses de praticiens de bal, ne sont pas des danses où il est possible de faire une carrière artistique. Pourtant, il est possible de travailler dans ce secteur, en tant que transmetteur, en tant qu'organisateur de bal, en tant que musicien, en tant que DJ. Mais communément, ça n'est pas considéré comme de la danse. Pour le dire autrement, les danses de bal en France, dans notre culture cultivée, sont des danses illégitimes. Elles n'ont aucune légitimité. Elles n'ont ni légitimité, ni visibilité. Du point de vue institutionnel, ce qui a de la valeur, c'est la scène. Ce qui a de la valeur, c'est le spectacle, c'est l'œuvre artistique, c'est la condition d'artiste. C'est l'artiste qui réalise des œuvres, qui peut rentrer dans une politique patrimoniale. Tout cela au bal est beaucoup plus flou, et beaucoup plus évanescent, et beaucoup plus indécis. Et donc, de ce point de vue-là, symboliquement, a beaucoup moins de valeur aux yeux des institutionnels de la culture.
Il n'y a pas d'œuvre dans le bal ?
Il n'y a pas d'œuvre dans le bal, non. Le bal n'est pas artistique. Le bal peut avoir une dimension artistique, c'est-à-dire que les praticiens peuvent éprouver le fait que leur pratique s'inscrit dans une dimension artistique, mais objectivement, tel que socialement la notion d'œuvre d'art est définie en France aujourd'hui et maintenant, le bal n'a aucune valeur artistique et n'est aucunement une œuvre d'art.
Donc là, tu parles du point de vue institutionnel.
Institutionnel et économique, puisque c'est à la fois un marché économique qui et un marché patrimonial et un marché institutionnel. Ces trois faisceaux de regard qui constituent aujourd'hui une œuvre d'art en France.
Tu viens danser en bal depuis longtemps ?
Non, moi j'ai découvert cette année les bals. D'accord. Du coup, c'est mon amie qui m'a fait découvrir en septembre. Du coup, c'est peut-être quatrième que je fais.
C'est une amie qui t'a amenée là, en
ouais.
fait. D'accord.
C'est elle.
Ah, ok. Comment elle s'appelle ton amie ?
Moi, je m'appelle Lida.
Lida.
Ouais, et ça fait longtemps que je fais des bals. Enfin, ça fait 2 ans que j'en fais beaucoup.
D'accord.
Et des festivals et tout.
Qu'est-ce que vous venez chercher en bal ? Qu'est-ce qui vous plaît ?
J'adore être entourée de plein de gens. Enfin, je trouve que c'est
un endroit où il y a beaucoup de respect et c'est un seul endroit où il y a vraiment du contact, un vrai contact avec les gens. J'adore être en osmose avec la personne quand on danse.
D'accord. C'est différent. Et vous venez entre copines alors, vous venez en bande quoi.
Ouais.
C'est ça.
Bah j'essaye de rameuter des gens pour leur faire découvrir parce que c'est vrai que c'est carrément un monde. On a l'impression qu'on a, enfin on sait même pas que ça existe. J'ai l'impression. Enfin moi j'ai plein de gens qui savent même pas que ça existe les balles folk.
Et toi comment
et des amis. Moi c'est mes parents. Ils connaissent, ils font déjà des balles et tout. Et ouais du coup je leur fais découvrir ça parce que c'est tellement incroyable que.
Cette fameuse chose dans les danses folk hein, qui est à la faveur des collectivités territoriales, c'est quand les agents disent « Ah oui, c'est une danse qui monte au plateau ». Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est considéré comme une espèce de réussite. Hein, mais c'est toujours pour transformer une pratique en spectacle. Ce qui montre bien que ce qui a de la valeur, ce n'est pas la pratique accessible à tous, c'est le spectacle accessible à une toute petite minorité. Le bal n'acquiert de la valeur que s'il est retravaillé, recomposé, réesthétisé par un chorégraphe, par un artiste. C'est-à-dire, en fait, il est tiré vers l'œuvre d'art, il est tiré vers la singularité artistique. Mais sinon, son régime de communauté n'a pas de valeur en soi, puisque tout le monde peut le pratiquer. Dans la dernière statistique sur les pratiques culturelles des Français, date de 2018, ce sont 7 à 8% des Français qui, une fois dans l'année écoulée, ont été voir un spectacle de danse. Et la majorité de l'offre de spectacles de danse en France consiste en des spectacles de danse contemporaine. Bon, voilà. Donc ça reste une pratique très très élitiste, et c'est là, pour ces gens, entre guillemets, qui composent une petite élite culturelle, que la danse est valorisée en tant qu'œuvre d'art. Mais le bal est pratiqué par le plus grand nombre en France. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, on manque de statistiques nationales, mais on dispose de plusieurs enquêtes régionales qui sont échelonnées dans le temps. Et les estimations qu'on avait réalisées avec d'autres collègues portaient sur entre 1 million et 3 millions de Français qui dansent chaque semaine dans les différentes formes de bal. Le bal au sens large, du thé dansant à la rave party, de la soirée salsa au bal renaissance. Du bal d'indie hop aux danses pratiquées en Bretagne.
Tu connais le groupe qui joue ce soir?
Ouais, j'ai déjà dansé sur Petit Piment, ouais. Et j'avais kiffé Petit Piment. J'avais kiffé le brand de la Vallée d'Osso notamment, que j'ai réécouté plein de fois après chez moi. Voilà, et.
Qu'est-ce que tu aimes dans ce Petit Piment là?
Qu'est-ce que j'aime? Bah, les rythmiques en fait qui viennent un petit peu de partout. On sait pas trop d'où dans le monde, voilà. Et voilà, sur une base de sud-ouest, de Béarn, de Pyrénées. Et voilà, il y a des trucs hyper chaloupés à danser, c'est hyper cool. J'ai découvert les danses du sud-ouest avec eux en fait la première fois. Et c'est un répertoire que je connaissais pas du tout. Voilà, c'était nouveau quoi. En fait, j'étais vachement ému par le branle d'osso. Je me rappelle encore de la sensation que ça me faisait quand je l'ai entendu. Voilà.
Qu'est-ce que tu viens chercher en bal?
La joie. En fait, c'est, je crois, un des lieux les plus joyeux que je connaisse, en fait. Enfin non, il y en a d'autres, mais la joie liée à la musique et à la danse, en fait, tout ensemble, c'est tout lié. Le chant, la danse, les instruments, et une grande joie et un grand partage. Et du coup, ça donne une énergie complètement dingo. Moi, ça me rebooste en énergie pour des semaines après un bal. Enfin, voilà.
Et au-delà du plaisir du bal immédiat, de la joie, de tout ce que tu viens de décrire, est-ce qu'il y a quelque chose lié à l'histoire des danses ou à la géographie de ces danses qui t'intéresse?
Ouais, j'avoue que ça,
je trouve ça passe.
Eh bien, la richesse et la diversité, en fait. Me rendre compte qu'il y a tout ça en France, notamment, mais après, il y a l'Europe aussi, enfin, il y a le monde entier, finalement. Mais en France, toute la diversité qu'il y a de danse que je ne connais pas, j'en découvre une par balle, si ce n'est deux ou trois, et qui sont toutes plus... Là, ce soir, c'était Mardi Gras, par exemple, qui est hyper rigolote, enfin, voilà, que je n'avais jamais vu encore. Et ben, pour peu qu'on fasse des ateliers, après, ben, avec Lucas Thébault, par exemple, sur le Brand de Noirmoutier, il nous explique absolument tout, d'où vient la danse et comment elle a été collectée, et la mamie Alpha et compagnie qui danse comme ça et qui nous la montre en vidéo. Et voilà, et du coup je crois que ça me touche vachement, en fait, cette joie simple qu'on peut retrouver aussi dans un quartier, de danser dans la rue, de voilà, et d'être ensemble à danser des choses simples et belles, et d'être joyeux ensemble, quoi. Et voilà.
Mais moi, mon rêve, c'est de mettre un parquet dans la rue Geoffrey. Hein. Après, il faut arriver à le financer, faut trouver une manière de... J'aimerais bien que ce soit gratuit, quoi, d'avoir un parquet gratuit de rue Geoffrey, ça me ferait kiffer, quoi.
Des parquets gratuits partout, en plein air, sur les places publiques, dans nos villes, dans nos villages. L'idée simple, mais belle, non? Est-ce que la danse ne mérite pas ça? Est-ce que ça ne changerait pas tout entre nous, de danser souvent ensemble? Fin de l'épisode 1 et de cette plongée dans les belles eaux du bal trad. Dans l'épisode 2, on va se demander de quoi est fait le bal. D'où viennent tous ces airs à danser que l'on danse au bal trad? Bal trad comme traditionnel, on est d'accord. Mais traditionnel de quelle époque, en fait? Du 12e, du 17e, du 19e? Comment ces danses ont-elles voyagé? Comment ces airs se sont-ils transmis et se sont-ils recomposés? Et surtout, comment on fait avec toutes ces partitions à trous, ces bribes de mémoire? C'était Radiographie du bal, un podcast de Péroline Barbet Ada pour Monde Audio. Épisode 1, l'expérience du bal, avec Lucas Thébault, Clémence Cognet, Jacques Puech, Guillaume Lacroux, Karine Billard, Christophe April et Françoise Morel en aide à la réalisation. Merci aux habitants de la Ramaille pour leur accueil en résidence. Merci à Morgane Montagna, Julie Olexiac, François Ganneau et Anne Damon-Guillot qui ont accompagné le projet. Un documentaire réalisé avec l'aide de l'appel à projet Mémoire du 20e et du 21e de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le concours du CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, et de l'AMTA, l'Agence des musiques et territoires d'Auvergne. Avec le concours également de l'Échappée, collectif de réalisateurs en Rhône-Alpes. Vous avez entendu dans cet épisode les musiques des groupes Perlimpinpin Folk en ouverture, Petit Piment et Turbo Bal, et du groupe Garenne enregistré à la Gare Expérimentale à l'occasion du festival Umlaut. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de Monde Audio à l'adresse suivante peroline-barbet.com. Cette série est également disponible pour toute diffusion radio, n'hésitez pas à demander. Si ce podcast vous a intéressé, en tout cas, nous avons besoin de votre soutien. S'il vous plaît, parlez-en et partagez largement. D'ici là, en avant d'eux et à bientôt. Ya la verán que soy.
Quand la belle s'en va au jardin de bon matin. Quand la belle s'en va au jardin de bon matin. C'est pour cueillir la violette bien tristement. C'est pour en faire un beau bouquet à son amant. La belle en faisant son bouquet, elle soupirait. La belle en faisant son bouquet, elle soupirait. Dites qu'avez-vous, ma mignonnette, à soupirer. Regrettez-vous vos amourettes du temps passé. Là, ce que j'ai à soupirer, vous le savez. Là, ce que j'ai à soupirer, vous le savez. Vous me laissez ici enceinte d'un bel enfant. Et quand vous reviendrez des Indes, il sera grand. Que ferons-nous de cet enfant?